France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
André Parinaud fut le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Art, qui rassemblait l'élite de la création française dans tous les domaines artistiques, littérature, peinture, théâtre, cinéma. Résistant, il avait, après la guerre, entrepris des séries d'entretiens radiophoniques avec les personnalités les plus marquantes, inventives et raffinées du XXe siècle, ici avec André Breton. Nous sommes en 1951. Persécuté par le régime de Vichy, André Breton s'est embarqué pour l'Amérique où, pendant la guerre, il avait, avec Marcel Duchamp, fondé une revue et travaillé pour les émissions de la radio « La Voix de l'Amérique » à destination de la France. Rentré en 1946, il s'était remis immédiatement au travail pour changer la vie et lutter contre toutes les formes d'asservissement, notamment celle la plus massive à cette époque, le stalinisme. Mais dans cette émission, il évoque les années qui suivent immédiatement la Première Guerre mondiale, les lectures et les amitiés, Lautréamont, Soupeau, Reverdy et tant d'autres.
Veuillez écouter Entretien avec André Breton, recueillis et présentés par André Parinaud.
L'époque évoquée par cette troisième émission se situe immédiatement dans les mois qui ont précédé la fin de la Première Guerre mondiale. La création de la revue Littérature en sera le centre d'intérêt, ainsi que vos relations avec ceux de vos amis qui devaient partager vos activités d'alors.
Eh bien, c'est dans nos premières rencontres avec Soupeau et Aragon que réside l'amorce de l'activité qui, à partir de mars 1919, devait opérer ses premières reconnaissances dans littérature, très vite faire explosion dans Dada, et avoir à se recharger de fond en comble pour aboutir au surréalisme.
Comment s'était établie votre amitié avec Philippe Soupeau?
J'avais connu Philippe Soupeau par Apollinaire. L'admiration élective que nous lui portions l'un comme l'autre avait été la base de notre rapprochement. J'avais rencontré un peu plus tard Louis Aragon à la librairie d'Adrienne Meunier, la maison des amis du livre, rue de l'Odéon. En sortant de là, nous avions fait route ensemble vers le Val-de-Grâce, où nous étions tous deux astreints à des obligations militaires alternant avec des cours de médecine à l'usage de l'armée. Il faut se représenter qu'à l'issue de la guerre de 14-18, ceux de la génération montante qui portaient un intérêt vital à la poésie et à ses problèmes avaient très vite fait de se compter. Rien de cette pléthore de revues et de plaquettes qui a marqué la fin de la guerre suivante et engendré sur le plan poétique, comme sur tant d'autres, une situation des plus confuses. Entre Soupeau, Aragon et moi s'établiront des échanges d'autant plus actifs que le terrain d'intervention est tout à fait libre et que, pour résolu que nous soyons à faire route commune, nous partons de déterminations fort distinctes. Chacun de nous étale devant les deux autres ce qu'il croit détenir de plus significatif, de plus précieux.
Est-il possible de mettre en valeur l'apport original de Soupeau dans votre petit groupe?
L'apport de Soupeau consiste dans un sens aigu du moderne, ce qu'alors entre nous nous appelons moderne, sans nous dissimuler ce que cette notion même a d'instable. Mais au sens où nous l'entendons, Apollinaire, par exemple, est moderne au plus haut point dans Lundi rue Christine et dans plusieurs chapitres du poète assassiné. Il cesse de l'être, c'est le moins qu'on puisse dire, dans Chant de l'honneur. Gide, quoiqu'à un moindre degré, est moderne dans la création du Lafcadio des caves du Vatican, voire dans certaines attitudes de Palude ou du Prométhée mal enchaîné. Il est amoderne ou antimoderne partout ailleurs. Il y va de l'affranchissement total à l'égard aussi bien des modes de pensée que d'expression, préétablis, en vue de la promotion nécessaire de façon de sentir et de dire, qui soit spécifiquement nouvelle et dont la quête implique par définition le maximum d'aventure. Suppot y apportait des dispositions naturelles très enviables. Il paraissait en particulier en être quitte avec la vieillerie poétique que Rimbaud, de son propre aveu, n'avait jamais réussi à éliminer. Sans doute, à cette heure, était-il le seul, je crois qu'Apollinaire s'y forçait, d'ailleurs à longs intervalles, à laisser le poème comme il venait, à le tenir à l'abri de tout repentir, n'importe où, au café, le temps de demander « garçon, de quoi écrire ?» Il pouvait répondre à la demande d'un poème. Le poème finissait, j'allais dire, retombait comme un chat sur ses pattes au premier dérangement extérieur. Ce qui résultait d'une telle méthode ou absence de méthode était d'intérêt assez variable, mais du moins valait toujours sous l'angle de la liberté et de la fraîcheur.
Et pourriez-vous nous présenter Suppot, le Suppot de cette époque ?
Il était comme sa poésie, extrêmement fin, un rien distant, aimable et aéré. Dans la vie quotidienne, on ne le retenait pas longtemps. Il aimait sans grand discernement tous les voyageurs. Rimbaud, peut-être en grande partie à ce titre, le Valéry Larbeau de Barnabus, le Sandrard du Transsibérien qu'il connaissait personnellement et qui lui avait découvert Arthur Cravant. Il avait assez peu lu, bien qu'il fût assez fortement teinté de littérature anglaise. Dans ce domaine, il paraissait plus féru de romans que de poèmes, bien que, considérant à distance ses chansons qui rendaient un son si neuf, je me demande si elles ne doivent pas beaucoup au non-sens d'Edouard Lear.
Aragon devait présenter un singulier contraste avec Suppot.
Aragon était de caractère et de formation bien différents. Tout à fait au début de nos relations, il mettait en poésie Villon bien au-dessus des modernes, et parmi les contemporains donnait largement le pas sur l'Apollinaire d'Alcool, au Jules Romain des Odes et Prières. On juge de l'hérésie que cela a pu constituer aux yeux de Suppot et aux miens. Mais c'était là une opinion qui avait cours autour d'Adrienne Monnier, qu'elle encourageait au possible. Et Aragon était des principaux familiers de sa librairie. Il avait tous les dons voulus pour y briller.
Je crois qu'il serait souhaitable que vous situiez Adrienne Monnier et sa librairie des Amis du Livre.
Adrienne Monnier avait su faire de cette maison le foyer d'idées le plus attractif de l'époque. Les plus attachantes figures se montraient un jour ou l'autre aux Amis des Livres. C'était Fargue, ou Reverdy, ou Larbeau, ou Satie. Je fis en sorte que Valéry et Apollinaire en découvrissent le chemin, qu'ils ne perdirent plus. À propos de Valéry, Paul Léoto a pu dire sans trop d'exagération que toute sa réputation et ses succès officiels sans précédent sont partis de là.
Aragon était-il déjà l'esprit séduisant et original que devait révéler le paysan de Paris ?
Lui-même. Sur le plan des goûts qui pouvaient l'opposer à Suppot aussi bien qu'à moi, il avait eu très vite fait de jeter du lest. Je revois l'extraordinaire compagnon de promenade qu'il était. Les lieux de Paris, même les plus neutres, par où l'on passait avec lui, étaient rehaussés de plusieurs crans par une fabulation magico-romanesque qui ne restait jamais à court et fusait à propos d'un tournant de rue ou d'une vitrine. Même avant Le Paysan de Paris, un livre comme Anicet donne déjà une idée de ses richesses. Nul n'aura été plus habile détecteur de l'insolite sous toutes ses formes. Nul n'aura été porté et n'aura induit à des rêveries si grisantes sur une sorte de vie dérobée de la ville. Je ne vois que lui qui ait pu souffler à Jules Romain, celui-ci en fait état dans Vorge contre Quinette, la prestigieuse fable des 365 appartements à communication clandestine qui existeraient à Paris. Aragon était en ce sens étourdissant, y compris pour lui-même. Dès cette époque, il a vraiment tout lu. Une mémoire à toute épreuve lui retrace à longue distance les intrigues de romans innombrables. Sa mobilité d'esprit est sans égale, d'où peut-être l'assez grande laxité de ses opinions et aussi une certaine suggestibilité. Extrêmement chaleureux et se livrant sans réserve dans l'amitié. Le seul danger qu'il court est son trop grand désir de plaire, étincelant.
Était-il déjà de quelque façon un révolté ?
En lui, à ce moment, peu de révolte. Le goût de la subversion, plutôt affiché par coquetterie. Mais en réalité, les impositions de la guerre et de l'orientation professionnelle, médicale, supportées avec allégresse. Croix de guerre au front, il s'arrangeait pour avoir pioché toujours un peu plus que les autres les questions d'internat.
Ce n'était donc pas encore pour lui la période d'incubation d'une crise morale qu'il devait sans doute traverser plus tard.
De crise profonde chez lui à ce moment aucune. Oui, elle devait se produire plus tard. Et autant qu'il me semble, par contagion.
Je suppose qu'à cette époque, vous êtes toujours en rapport avec Valérie et Apollinaire.
Je continue à voir Valérie. Sans doute avec moins d'élan depuis que je le sais aux prises avec les alexandrins plus ou moins raciniens de la jeune Parc. Est-ce bien la peine de s'être caché si longtemps pour reparaître dans ce costume? J'ai déjà dit que pour moi, un mythe très exigeant était en cause. Monsieur Test était joué comme trahi. Quelques éclairs mis à part ce long poème, dit d'ailleurs exercice par son auteur, me paraissaient loin de se justifier. Apollinaire a réintégré son pigeonnier du 202 boulevard Saint-Germain. On s'y faufile entre des rayons de livres, des rangées de fétiches africains et océaniens, des tableaux de l'espèce alors la plus révolutionnaire, comme autant de voiles cinglant vers les plus aventureux horizons de l'esprit, Picasso, Quirico. Il n'est pas de chemin plus sinueux que celui qui mène à cette table devant laquelle il se tient, mi-présent, mi-absent. Car, sans trop laisser tomber la conversation, il pique de ci de là quelques mots sur une feuille volante et sa plume plonge dans le terrible encrier Sacré-Cœur en bronze doré. Il raffole de tels objets. Il lui arrive aussi de me laisser seul chez lui pendant plusieurs heures, après m'avoir mis en main quelque ouvrage rare, un Sade ou un tome de M. Nicolas. Soupeau et moi, plus tard Aragon, nous lui faisons plutôt des visites successives. Ce qui se prête bien mieux à notre réunion, c'est la pièce presque nue où nous reçoit Pierre Reverdy, généralement le dimanche. Il habite au haut de Montmartre, rue Cortot, à quelques pas de la rue des Saules. L'étonnant climat qui règne ici, rien ne peut en donner idée, comme cette admirable phrase de Reverdy lui-même qui ouvre la lucarne ovale. En ce temps-là, le charbon était devenu aussi précieux et rare que des pépites d'or, et j'écrivais dans un grenier où la neige, en tombant par les fentes du toit, devenait bleue. Une telle façon de dire n'a pour moi rien perdu de son enchantement. Instantanément, elle me réintroduit au cœur de cette magie verbale qui, pour nous, était le domaine où Reverdy opérait. Il n'y avait eu qu'Aloysius Bertrand et Rimbaud à s'être avancés si loin dans cette voie. Pour ma part, j'aimais et j'aime encore, d'amour, cette poésie pratiquée à large coupe dans ce qui nimbe la vie de tous les jours, ce halo d'appréhensions et d'indices qui flotte autour de nos impressions et de nos actes. Reverdy était beaucoup plus théoricien qu'Apollinaire. Il eût même été pour nous un maître idéal s'il avait été moins passionné dans la discussion, plus véritablement soucieux des arguments qu'on lui opposait. Mais il est vrai que cette passion entrait pour beaucoup dans son charme. Nul n'a mieux médité et su faire méditer sur les moyens profonds de la poésie. Rien ne devait par la suite avoir plus d'importance que ses thèses sur l'image poétique. Il n'est non plus personne qui, de la longue ingratitude du sort, ait montré un détachement plus exemplaire.
Ainsi par la moindre divergence avec Reverdy.
Oh, avec lui, les sujets de controverse ne manquaient pas. Nous le trouvions, malgré tout, un peu replié sur son propre monde, trop exclusivement attentif à ce qui, autour de lui, était alors expression poétique en rapport avec le cubisme. Nous pensions, ou nous pressentions, que d'autres courants sensibles étaient en marche et que rien ne les endiguerait. Bon nombre de nos préoccupations nous étaient d'ailleurs suggérées par la découverte récente de l'autre Amont qui nous avait tous trois transportés. Rien, pas même Rimbaud, ne m'avait agité à ce point. Aujourd'hui encore, je suis absolument incapable de considérer de sang-froid ce message fulgurant qui me paraît excéder de toutes parts les possibilités humaines. Pour savoir jusqu'où pouvait aller notre exaltation à son propos, il n'est que de se rappeler ces lignes de Soupeau. « Ce n'est pas à moi ni à personne, entendez-vous, messieurs, qui veut mes témoins, de juger monsieur le comte. On ne juge pas monsieur de Lautréamont. On le reconnaît au passage et on salue jusqu'à terre. Je donne ma vie à celui ou à celle qui me le fera oublier à jamais. Cette déclaration, en forme de pacte, sans hésitation, je l'aurais contresignée. Reverdy n'était pas passé par là, et par suite ne pouvait avoir idée de la violence des impératifs auxquels Maldoror nous soumettait. Pour nous, il n'y eut d'emblée pas de génie qui tint devant celui de Lautréamont. Un grand signe des temps nous parut résider dans le fait que jusque-là, son heure ne fut pas venue, alors qu'elle sonnait de toute évidence pour nous.
Et quelles sont donc en résumé les préoccupations qui vous sont communes en ces derniers mois de guerre ?
Ce sont celles qui tendent à l'élucidation du phénomène lyrique en poésie. Nous entendons par là ce qui constitue un dépassement en quelque sorte spasmodique de l'expression contrôlée. Je me persuade pour ma part que ce dépassement ne peut résulter que d'un afflux émotionnel considérable et qu'il est aussi le seul générateur d'émotions profondes en retour. Les plus hauts exemples que je m'en donne tiennent chez Lautréamont dans l'exubérance des « beaux comme », dont l'exemple le plus souvent cité est le suivant, « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie », ou encore dans les défaillances de mémoire qui, à la fin du chant 4 de Maldoror, entoure l'évocation de la chevelure de Falmer. Chez Rimbaud, il me semble que les cimes sont atteintes dans dévotion et dans rêve.
Est-ce que vos réflexions sur ce thème ont trouvé alors une occasion de s'objectiver ?
C'est vers cette époque qu'Apollinaire publie dans le Mercure de France un assez long texte de caractère manifeste sous le titre « L'esprit nouveau et les poètes ». Texte qui n'emporte, il faut bien le dire, que notre partielle adhésion. Si nous trouvons bon de voir Apollinaire confirmer qu'en poésie et en art, la surprise est le grand ressort nouveau et revendiquer une liberté d'une opulence inimaginable, nous nous inquiétons du souci qu'il marque de renouer avec l'esprit critique des classiques, qui nous paraît terriblement limitatif, aussi bien qu'avec leur sens du devoir, que nous tenons pour contestable, en tout cas périmé, et tout à fait hors de question. La volonté de situer le débat sur le plan national et même nationaliste, la France, dit Apollinaire, détentrice de tout le secret de la civilisation, nous semble plus inadmissible encore. Nous n'acceptons pas davantage de voir humilier l'art devant la science. Nous déplorons surtout que l'esprit nouveau, ainsi conçu, cherche à se fonder sur des artifices extérieurs, typographiques et autres. Les moyens lyriques, proprement dits, ne sont ni approfondis ni renouvelés. Mais la blessure d'Apollinaire peut avoir eu pour effet de limiter son audace et de réduire son champ de prospection. Quelques mois encore et cette voix prestigieuse allait s'éteindre. Par un paradoxe du sort, ce devait être la veille de l'armistice. Cette voix en laquelle s'étaient fondues celle de Simon Mage et de Merlin, et aussi celle que, dans l'inouï pur, il avait prêtée à Cronia Mental, le poète assassiné. Vers le 10 janvier 1919, nous devions apprendre la mort de Jacques Vacher, survenue comme par accident, à la suite d'une trop forte ingestion d'opium dans un hôtel de Nantes. Vacher, que j'étais seul à connaître, bien qu'Aragon eût échangé une lettre avec lui, exerçait sur nous une séduction sans égale. Son comportement et ses propos nous étaient un objet de continuelle référence. Ses lettres faisaient oracle, et le propre de cet oracle était d'être inépuisable. Je pense aujourd'hui qu'il disposait du grand secret qui consiste à la fois à dévoiler et à voiler. Toujours est-il qu'il incarnait pour nous la plus haute puissance de dégagement, dégagement à son comble, à l'égard de tout ce qui venait hypocritement de se professer, dégagement à l'égard de l'art, l'art est une sottise, dégagement surtout à l'égard de la loi morale en cours qui venait de donner toute sa mesure. Je m'étonne à distance que le ressaisissement ait si peu tardé, puisqu'en mars 1919 paraît, sous notre triple direction Aragon-Breton-Soupeau, le premier numéro de la revue Littérature. Valéry a suggéré ce titre, qui est déjà chargé pour lui d'ambivalence en raison du dernier vers de l'art poétique de Verlaine et tout le reste est littérature. De son point de vue, celui de l'intellect, Valéry ne peut manquer d'être plus favorable à cette littérature du tout le reste qu'à ce que Verlaine entend lui opposer, mais il rit sous cape et la perversité n'est sûrement pas absente de son conseil. En ce qui nous concerne, si nous adoptons ce mot pour titre, c'est par antiphrase et dans un esprit de dérision où Verlaine n'a plus aucune part.
Et comment se présente littérature au départ ?
Oh, comme une revue de très bonne compagnie. Que veut-on de mieux ? Les grands survivants du symbolisme, Gide, Valéry, Fargue, ouvrent la marche. Suivi des poètes qui ont gravité autour d'Apollinaire, Salmon, Mac Jacob, Reverdy, Sandrard. Les rejoindront un peu plus tard Morand et Giraudoux, puis Drieu-La Rochelle. La transition entre eux et nous est marquée par Jean Paulhan, à qui je devrais de connaître peu après Paul Éluard. Il semble que tous les égards voulus soient observés et aussi que le bon vent nous mène. Au cours de ces quatre premiers numéros, c'est-à-dire de mars à juin 19, la revue publie les poésies d'Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont, que j'ai été copié dans le seul exemplaire connu, celui de la Bibliothèque nationale, et un inédit de grande importance de Rimbaud, Les mains de Jeanne-Marie. Mais divers craquements ne vont pas tarder à se produire, marquant les signes avant-coureurs de Dada.
Vous venez d'entendre Entretien avec André Breton, recueillis et présentés par André Parineau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 mars 1952.